Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. Chers amis, bonjour à vous, bonjour à tous et bonjour à vous également, Mac, co-animateur de l'émission Paroles en musique.
Bonjour Raymond.
Il est bon de se retrouver en ce samedi, hein, le jour qu'on appelle du rattrapage. Là, on essaie de faire tout ce qu'on a négligé un peu durant la semaine en raison des activités multiples. Écoutez, il nous fait plaisir à Mac et à moi de vous accompagner dans cela. Nous espérons que vous appréciez, hein, cette émission Paroles en musique. J'apprécie beaucoup, personnellement, me sustenter aux enseignements de Mac eu égard à l'arrière-plan, hein, de ces cantiques-là qui nous donnent une meilleure compréhension du message qu'ils véhiculent. Je suis persuadé, Mac, que vous avez eu une bonne semaine puisque vous, Dieu dans sa grâce, vous épargne toutes les épreuves.
La semaine était bonne, la semaine était chargée, mais le Seigneur a donné grâce et l'énergie nécessaire pour arriver jusqu'à ce jour.
Voilà, comme disait le grand saint Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne, n'est-ce pas? Alors, Mac, aujourd'hui, nous allons retrouver notre petit cœur d'enfant, n'allons-nous pas?
Hein? Tout à fait ça.
Oui.
Tout à fait ça. Le chant que nous avons aujourd'hui, c'est un chant que je crois que tout le monde devrait au moins le connaître. Un chant d'enfant, premièrement, mais un chant qui porte des vérités dedans pour adultes aussi, pour tout le monde. Le chant s'appelle « Jesus Love Me » et aujourd'hui, nous allons regarder ce chant ensemble. Un chant qui renferme des vérités parmi les plus simples, mais vraiment, je crois, parmi les plus profondes aussi de notre foi. Permettez-moi d'abord de vous donner une traduction de ce que nous allons entendre en musique dans quelques instants. Le chant est traduit en français et suit pas mal en français ce que l'anglais dit, mais je vais vous donner les paroles. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Les petits lui appartiennent, ils sont faibles, mais il est fort. Jésus m'aime celui qui est mort afin d'ouvrir les portes du ciel. Il lavera mon péché et permettra à son petit enfant d'y entrer. Jésus m'aime, il restera tout près de moi, tout le long du chemin. Tu as versé ton sang, tu es mort pour moi. Je vivrai dorénavant pour toi. Et puis il y a un refrain qui s'ajoute, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit.
Amen, c'est certainement une source très sûre, hein? Alors, nous allons entendre donc, Mac, une première version de ce chant-là.
Effectivement, comme ce chant appartient d'abord, je crois, aux plus jeunes parmi nous, il convient d'en écouter une présentation par un groupe d'enfants, sans doute. Alors, nous allons céder la place aux Cedarmont Kids, afin qu'ils nous chantent « Jesus Loves Me ».
Oh,
Voilà dans un premier temps le chant « Jesus Loves Me ». Ce n'était pas d'abord comme chant que ce texte apparut, mais plutôt comme poème, comme plusieurs chants d'ailleurs, cité par un des personnages dans un roman écrit par Anna Warner et sa sœur Susan. Le récit présente un homme en train de répéter ses paroles afin de réconforter un enfant mourant. Le livre a plus ou moins disparu dans l'histoire, mais les paroles du poème restent gravées dans la mémoire de milliers d'enfants et d'adultes. Il est probablement le premier chant chrétien dont beaucoup se souviennent quand ils pensent à leur enfance. Les sœurs Warner, les deux bien éduquées, profondément consacrées au Seigneur, habitaient l'État de New York, assez proche de l'Académie militaire de West Point, où elles enseignaient des classes bibliques pour les cadets. Le décès de leur père les a laissés sans grande revenue et elles sont devenues, par la force des choses, femmes écrivains, subvenant ainsi à leurs besoins. À leur mort, elles ont été reconnues par un enterrement avec honneur militaire à cause de leur contribution aux vies spirituelles des jeunes officiers. Le texte que nous connaissons aujourd'hui en tant que chant est devenu populaire à un niveau vraiment international, je pense qu'on peut dire, et c'est William Bradbury, bien connu pour d'autres chants comme « Tel que je suis » par exemple, qui a écrit l'air pour « Jesus Loves Me » après avoir vu le texte dans le roman des sœurs. Il l'a composé en 1861 et il y a ajouté le premier refrain « Oui, Jésus même, la Bible me le dit ». L'année suivante, le chant a paru dans un recueil de cantiques et sa popularité n'a cessé de grandir depuis ce moment-là. Voilà donc le chant dans son histoire.
Merveilleuse histoire, et surtout, encore plus merveilleuse comme histoire, l'histoire de l'amour de Jésus. Alors, on l'a mentionné, c'est un chant traditionnellement qu'on dit pour les enfants, mais c'est un peu trompeur, parce que c'est un chant qui, finalement, recèle une très très grande profondeur théologique. C'est un chant qui fait la joie des enfants depuis environ deux siècles, hein, comme vous l'avez mentionné. Le message, il est effectivement tout simple, mais ce n'est pas parce que le message est simple qu'il n'est pas pour autant profond. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. En effet, la Bible fait référence à l'attention que Jésus réservait aux enfants. Jésus n'était pas du tout indifférent aux enfants, loin de là. Nous lisons d'ailleurs dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi. » les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » Moi, Max, ce que ça me dit, ça, c'est que... Enfin, ça m'en dit beaucoup sur l'attitude du Seigneur Jésus. Jésus doit avoir une personnalité agréable, hein, parce qu'il attirait les enfants. Les enfants ne sont pas portés à aller vers les gens qui ont un air sévère, un air bourru, un air morose, hein, mais les gens qui dégagent une joie, qui dégagent une passion, attirent beaucoup les enfants. Ils vont se laisser attirer par ceux qui sont souriants, par ceux qui dégagent une joie de vivre, et Jésus les attirait. D'ailleurs, les évangiles nous révèlent un Jésus bon vivant, n'est-ce pas? Bien sûr que, comme tout homme, bon, il aura ses tristesses et qu'il ne manquera pas d'adresser des reproches là où faire se doit, mais Jésus était un homme heureux, n'est-ce pas? Un homme joyeux. Imaginons là au banquet de Matthieu, par exemple. Imaginons-le dans la maison de Zachée, ou encore avec les petits-enfants, comme dans la portion qu'on vient de lire dans l'Évangile de Marc. On est loin, passez-moi l'expression, d'un Jésus aux allures religieuses, sombres et ennuyeuses, hein? Donc, revenons-en à notre chant. Première strophe. Vous voulez bien nous la répéter, Max, s'il vous plaît? Première strophe.
Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Les petits lui appartiennent, ils sont faibles, mais il est fort.
Cette affirmation, en apparence très simple, véhicule une vérité de toute première importance. Quelle est cette vérité? Comment puis-je savoir que Jésus m'aime? Comment puis-je être assuré de l'amour de Jésus? Est-ce parce que je ressens son amour? On vit dans une culture tout en sentiment, comme on dit, tout en feeling. Est-ce que c'est parce que je ressens son amour? Est-ce parce que je crois avoir été gentil aujourd'hui? Donc, Jésus doit être content et il doit m'aimer. Je sais que Jésus m'aime pour la simple et unique raison que Dieu lui-même me le dit dans sa parole. Je sais que Jésus m'aime, la Bible me le dit. Il ne m'aime pas parce que je suis fort, bien au contraire. Je ne suis que faiblesse. Cependant que lui, il est toute puissance. Que Jésus puisse amener des pécheurs comme nous, puisse aimer des pécheurs comme nous, ça relève certainement du surnaturel. L'un des événements marquants de l'histoire de l'Église, je dirais, on aime les paradoxes et on aime les situations choc, est survenu lors de la visite en sol américain du grand théologien suisse Karl Barth, le théologien néo-orthodoxe, et il avait donné une conférence et il prenait bien sûr par la suite les questions des gens, et un étudiant voulant vraiment sonder là toutes les profondeurs de la pensée de Karl Barth lui demande: docteur Barth, quelle est la pensée la plus profonde qui vous soit jamais venu à l'esprit? Et Karl Barth, après un petit moment de silence, de répondre: Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Il était très orthodoxe dans cette réponse-là. S'il a glissé un peu sur d'autres domaines, ici il a été irréprochable, parce qu'effectivement, peut-on avoir une pensée plus élevée, une pensée plus profonde que celle-là? Donc, l'une des premières vérités qui se dégage de ce chant, c'est que l'amour de Jésus est une réalité à laquelle j'ai accès par la parole de Dieu. Le caractère central, ça nous parle du caractère central et puissant de la parole de Dieu. Jésus lui-même, dans ce que nous appelons la prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, verset 17, de dire « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Alors, si la Bible me dit que Jésus m'aime, si la Bible me donne la voie du salut, comment je peux venir à Dieu par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ? Sa parole est la vérité. Le psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et que dire du psaume 19 où nous retrouvons les deux aspects de la révélation, La première partie nous donne la révélation générale et la deuxième partie, versets 8 à 12, nous parle de révélation spéciale, nous parle de la parole de Dieu, la loi de l'Éternel. Il y a toutes sortes d'expressions synonymes employées pour décrire la loi de Dieu, la parole de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Très important de prêter oreille et cœur à ce que la Bible me dit, surtout lorsque Dieu veut nous parler d'amour en Jésus-Christ. Deuxième strophe.
Jésus m'aime, celui qui est mort afin d'ouvrir les portes du ciel. Il lavera mon péché et permettra à son petit enfant d'y entrer.
Quelle est la meilleure vitrine de l'amour de Jésus? Bon, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Maintenant, une fois que c'est dit, on aime bien voir aussi. Alors, où est-ce que je peux voir l'amour de Jésus exposé en vitrine? Amis auditeurs, pensez-y un petit moment là. Où est-ce que l'amour de Christ est le plus clairement manifesté? Ben, si vous pensez comme moi, vous allez dire la croix. La croix, c'est là vraiment où on voit l'amour sacrificiel du Seigneur Jésus. Mais vous me direz, en quoi est-ce que la croix expose l'amour de Jésus? Ben, la réponse, Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pas dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que, après qu'on soit devenu gentil et saint et tout à fait parfait, le Christ est mort pour nous. Il serait jamais venu mourir pour nous s'il avait entendu cela. Alors que nous étions encore en rébellion contre lui, le dos tourné contre lui, il est mort pour nous de sorte que, si on s'approprie ce sacrifice-là par la foi, hein, si on reconnaît que nous sommes pécheurs et qu'on a besoin de ce sacrifice-là par la foi, ben voilà, son amour devient efficace dans nos vies. Le chant nous dit, à la suite de la parole de Dieu, que le Christ nous a ouvert les portes du ciel, qu'il nous a lavé de tous nos péchés. La grande question, avez-vous reçu cet amour de Jésus? Troisième strophe.
Jésus même, il restera tout près de moi, tout le long du chemin. Tu as versé ton sang, tu es mort pour moi. Je vivrai dorénavant pour toi.
Alors, Max, j'ai une question théologique à vous poser. Vous passez le test...
Spécialiste, vous le savez bien.
Vous passez le test d'orthodoxie, là, ce matin. Je vois votre tension monter. Wow. Votre visage change de couleur.
Tout à fait.
Quelle doctrine nous enseigne cette troisième strophe, dites-moi?
Mais la doctrine passe par plusieurs noms, je crois, mais la persévérance des fils,
c'est 10 sur 10.
Qui vient à l'esprit,
quoi. 10 sur 10. Je savais que vous étiez féru de théologie, que vous étiez un théologien guéri, effectivement.
Parce que certains l'appellent la persévérance du Seigneur.
Oui, en effet. Et d'autres, la pérennité du salut. Il y a plusieurs appellations, mais effectivement, l'appellation la plus courante, c'est la persévérance des saints. C'est-à-dire que quelqu'un que Dieu a vraiment sauvé va persévérer jusqu'à la fin. Alors, la belle doctrine de la persévérance des saints. D'abord, un saint, ce n'est pas quelqu'un qui a été canonisé, là, après avoir plusieurs miracles prouvés, etc. Non, c'est quelqu'un qui était mis à part. Hein. Le mot agios, hein, le mot veut dire effectivement mis à part.
Alors, c'est moi.
Voilà, c'est vous, moi. Vous êtes un Saint-Mac. Merveilleux.
Pas tout le temps, vraiment.
Ben, enfin, vous gardez le titre, à tout le moins, exactement. À défaut, parce que nous sommes saints de position.
Voilà.
Notre condition en est une de sanctification progressive, mais de position, nous sommes saints. Et encore une fois, cette assurance-là, elle ne vient pas de mes sentiments. Elle ne peut pas venir non plus de mes bonnes résolutions, parce que je sais ce qu'elles valent, hein, mes bonnes résolutions. Ou de quoi que ce soit d'autre en moi, mais elle vient de la Bible. Si Jésus, dans son amour, n'a pas hésité à donner sa vie pour moi, il ne me laissera certainement pas tomber en cours de route, hein. C'est un peu ce que nous dit cette strophe, n'est-ce pas? Philippiens, chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul de dire, je suis persuadé, et il écrit, n'est-ce pas, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 3, 5, l'une de mes portions d'écriture favorites, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Alors l'héritage nous est décrit ici. Il ne peut pas se corrompre, il ne peut pas se souiller, il ne peut pas flétrir. Donc, c'est un héritage certain. Maintenant, comment puis-je être certain, moi, que je vais me rendre jusque-là? Que je vais pouvoir, si vous me passez l'expression, mettre la main sur cet héritage-là? Ben, le verset poursuit. Il vous est réservé, cet héritage-là, il est réservé dans les cieux. C'est un lieu assez sécuritaire, le ciel, hein. Il est réservé à qui? À vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et le verbe, comme vous le savez, vraisemblablement, Mac, l'expression « être gardé » parle d'être gardé contre une invasion, mais aussi d'être protégé contre une possible évasion. Hein? Dieu me tient, Dieu me maintient, Dieu me garde, et comme le dit la strophe, Jésus marche avec moi tout au long du chemin. Alors voilà, Mac, avant que vous nous présentiez la version finale qui va mettre un terme à l'émission de ce matin, nous voulons certainement remercier nos auditeurs et nos auditrices d'avoir été là, et je veux sur une base personnelle vous remercier de votre contribution, toujours fort appréciée, et nous voulons souhaiter bien sûr à tous nos auditeurs et auditrices un bon week-end, et un bon week-end pour un chrétien veut dire quoi? Veut dire qu'on va s'assembler avec les frères et les sœurs. Demain, le jour du Seigneur, pour entendre la bonne parole de notre Dieu. Hein? On le dit souvent, Calvin disait que la chair, d'où la parole est prêchée, c'est le trône d'où Dieu dirige la vie de son peuple. Que la bonne parole du Seigneur puisse être prêchée avec puissance demain, et surtout que nos cœurs soient ouins, parce que vous savez que quand on considère sérieusement les Écritures, il y a plus de responsabilité sur l'écoute que sur celui qui parle. La Bible nous dit « Prends garde à la manière dont tu écoutes ». Alors donc, vous souhaitez un bon week-end, un bon samedi, un bon jour dominical. Et Mac, qu'est-ce que vous nous offrez là pour clore l'émission de ce matin?
Raymond, nous allons terminer avec, encore une fois, le même cantique, mais présenté pour les enfants, les jeunes, les moins jeunes, de façon un peu différente cette fois-ci. L'air a changé un petit peu, mais pas du tout les vérités contenues dans le chant. Et nous allons écouter le trio qui s'appelle Go Fish, cette fois-ci, qui va nous chanter Jesus Loves Me.
Yes.